de rire.
C'est l'heure du journal, en effet, avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Après sa victoire aux élections législatives et présidentielles, Recep Tayyip Erdogan dispose des pleins pouvoirs en Turquie. L'opposition s'incline. Les observateurs de l'OSCE regrettent que les conditions de la campagne n'aient pas été équitables. Les migrants restent un sujet de tension entre partenaires européens avant le sommet de jeudi prochain. De passage à Tripoli, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, propose la création de centres de migrants au sud de la Libye. La fin de 17 années d'embargo de la viande bovine française en Chine. En visite à Pékin, Édouard Philippe a obtenu la confirmation de cet engagement chinois. Et puis 40% des cancers pourraient être évités grâce à une meilleure hygiène de vie. Une étude confirme l'importance de la prévention. Elle reste insuffisante en France, souligne le député LREM Olivier Véran. Muharrem İnce, le principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan, a fini par accepter sa défaite. Monsieur Erdogan a-t-il tout de même déclaré à la mi-journée « Arrêtez désormais de vous comporter comme le secrétaire général de l'AKP, le parti au pouvoir, et soyez le président de 81 millions de Turcs ». D'après l'agence de presse étatique Anadolu, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 52,5% des voix à l'élection présidentielle, soit plus que son score de 2014. Et grâce à la réforme constitutionnelle approuvée l'an dernier par référendum, il dispose de pouvoirs considérables. Les précisions de notre envoyé spécial en Turquie, Géraldine Allot.
Grâce à la révision constitutionnelle votée l'an dernier et appliquée pour la première fois aujourd'hui, le président réélu Recep Tayyip Erdogan est doté de pouvoirs élargis. Il devient en quelque sorte un hyper-président. Fini le poste de premier ministre. Erdogan va nommer des vice-présidents. Il décidera lui-même du budget de l'État. Il pourra gouverner par décret sans passer par le Parlement. Théoriquement, les députés disposent encore d'un petit pouvoir de blocage, mais comme l'AKP, le parti présidentiel et ses alliés ultranationalistes du MHP ont la majorité absolue à l'Assemblée, on imagine mal le Parlement être autre chose qu'une chambre d'enregistrement. Erdogan va donc pouvoir peaufiner sa stature d'homme fort, d'autocrate, un peu à l'image de la tendance mondiale, estime le politologue turc Mustafa Görkem Doğan.
Les Américains sont contents de Donald Trump. Les Russes sont contents de Vladimir Poutine. Les Hongrois sont contents de Viktor Orban. Si on pense, la conjoncture mondiale aussi favorise les autocrates.
Sauf qu'en Turquie, il n'y aura carrément plus de contre-pouvoir. En plus d'un parlement aux ordres, Erdogan contrôlera le système judiciaire puisqu'il va nommer directement les magistrats.
Géraldine Allot à Istanbul. Alors que le premier ministre hongrois Viktor Orban et le président russe Vladimir Poutine ont rapidement félicité le président turc, l'Union européenne fait part de ses réserves. Ce soir, elle estime que la campagne électorale n'a pas été équitable. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont constaté des entraves aux libertés fondamentales ayant eu un impact sur ces élections turques. Un mouvement de grève exceptionnel en Iran. Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont fermé boutique pour protester contre la dépréciation continue de la monnaie iranienne. Et il y a eu des affrontements entre commerçants mécontents et policiers. On retrouve Siavosh Ghazi dans la capitale iranienne.
De nombreux commerçants du Grand Bazar de Téhéran, considérés comme le poumon économique du pays, ont fermé leurs magasins pour manifester dans les rues contre l'aggravation de la situation économique. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants dans plusieurs avenues autour du Grand Bazar. La raison de cette gronde, la chute du rial iranien face au dollar ces derniers jours, ce qui a poussé de nombreux commerçants à cesser toute activité, faute d'avoir une perspective économique claire. De nombreux commerçants du bazar refusent tout simplement de vendre des produits car la hausse du dollar pourrait continuer, selon les experts, en raison des sanctions économiques américaines à venir après la sortie de Washington de l'accord nucléaire. Les autorités accusent les États-Unis d'avoir commencé une véritable guerre économique contre le pays avec les nouvelles sanctions. Face à cette situation, le premier vice-président iranien a appelé à l'unité face à la guerre économique menée par les États-Unis. De nombreux experts estiment en effet que la situation devait s'aggraver au cours des prochains mois.
Siavosh Ghazi, à Téhéran, à 3 jours du Conseil européen qui doit tenter de faire converger les politiques migratoires européennes, le ministre italien de l'Intérieur s'est brièvement rendu en Libye, principal point de passage pour des milliers de migrants cherchant à se rendre en Europe. L'Italie refuse désormais l'accès de ses ports aux bateaux des ONG qui portent secours aux migrants en mer Méditerranée. Les nouveaux gouvernements estiment que les gardes-côtes libyens assurent très bien eux-mêmes les sauvetages. Et à Tripoli, Matteo Salvini a présenté ses projets à son homologue libyen et au vice-premier ministre. Il propose la création de centres de migrants aux frontières méridionales de la Libye, Mathilde Imberti.
Une visite éclair à Tripoli, le temps de rappeler une priorité, celle de l'Italie et de la Libye, a déclaré Matteo Salvini. Arrêter les navires des ONG qui, dixit le ministre, participent au trafic d'êtres humains. En marge des rencontres officielles avec le vice-premier ministre libyen et le ministre de l'Intérieur, l'homme fort du gouvernement italien n'a pas hésité à remercier ouvertement les gardes-côtes libyens qui ont pris la main sur les sauvetages en Méditerranée ces derniers jours. La marine libyenne assure désormais la plupart des opérations. Depuis mercredi dernier, elle a récupéré 2000 migrants en mer pour les ramener en Libye, où ils sont emprisonnés et maltraités selon de multiples témoignages. Matteo Salvini, par ailleurs, ne revient pas sur sa décision de fermer les ports italiens. Tandis qu'il clôt sa visite à Tripoli, des centaines de migrants sont dans l'attente d'un port sûr pour débarquer au large de Malte ou de la Sicile, notamment le navire de l'ONG Lifeline, un cas Aquarius Bis. Sur la gestion des flux au départ de l'Afrique, Matteo Salvini revient de Libye avec une proposition concrète qui sera présentée jeudi au Conseil européen, l'ouverture de centres d'accueil et d'identification des migrants au sud de la Libye, à sa frontière externe, une piste à contre-courant de ce que propose la France notamment, qui préférerait des centres fermés en Italie et en Espagne, donc sur les côtes européennes. À distance, le bouillonnant patron de la Ligue a tenu son bras de fer aujourd'hui, et avec les ONG, et avec les partenaires européens de l'Italie.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome. Elle était interdite en Chine depuis 2001. La viande bovine française va de nouveau pouvoir être commercialisée. Emmanuel Macron en avait obtenu l'engagement lors de sa visite en Chine en janvier. Édouard Philippe a signé aujourd'hui à Pékin, avec son homologue chinois, le protocole d'accord mettant fin à 17 ans d'embargo lié à la crise de la vache folle. En France, les entreprises du secteur saluent bien entendu cette annonce. Écoutez Paul Rouche, il est directeur délégué de Culture Viande, syndicat qui regroupe les principales entreprises françaises du secteur de la viande.
La consommation de viande bovine en Chine augmente de 10 à 15% par an depuis quelques années, dû à l'émergence effectivement de la classe moyenne et de la classe dirigeante. Pour vous donner un exemple, dans les années 80, les Chinois mangeaient 20 kilos de viande. Aujourd'hui, on en est à près de 60 kilos. Donc il y a une très forte progression de la consommation. Et l'ouverture du marché pour la France, c'est deux choses. D'abord, montrer que l'image de la viande, que notre production, que notre élevage, que notre système d'abattoir est à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir prétendre à cette ouverture de marché, et effectivement un potentiel développement de nos activités à l'exportation. Aujourd'hui, la Chine importe à peu près 2 millions de tonnes. Les principaux fournisseurs de la Chine sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire des pays très forts producteurs en viande bovine et qui sont à des prix très inférieurs aux nôtres. Donc notre objectif n'est pas un objectif de volume important, il est plutôt un objectif de segmentation avec des produits qualitatifs.
Paul Rouche, directeur délégué de Culture Viande. Le financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron intéresse la justice. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, financement irrégulier de campagne et abus de biens sociaux. Il fit suite à une plainte déposée par les élus Les Républicains lyonnais. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Ces élus d'opposition s'interrogent sur l'implication de la ville et de la métropole de Lyon, dirigée à l'époque par Gérard Collomb, qui est aujourd'hui, on le sait, ministre de l'Intérieur.
Oui, ce sont deux figures de l'opposition à Gérard Collomb à Lyon qui ont déposé plainte. Stéphane Guillan, leader du groupe Les Républicains au conseil municipal, et Philippe Cochet, maire LR d'une commune limitrophe, Caluire. Tous deux estiment que des moyens humains et matériels de la mairie et de la métropole ont été indûment utilisés au profit du futur candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron. Ces deux élus pointent des réceptions, l'une notamment organisée en juin 2016 à l'hôtel de ville de Lyon. Elles sont également visées par cette plainte un meeting qui s'est tenu en septembre 2016 au Palais des Sports, ou encore la location d'une péniche qui aurait donné lieu à une ristourne de plusieurs centaines d'euros. Et puis les plaignants affirment que celui qui était chef de cabinet de Gérard Collomb à l'époque travaillait en réalité à la campagne du candidat Macron. Alors, y a-t-il eu utilisation frauduleuse de moyens publics au profit d'activités partisanes, comme il est stipulé dans cette plainte ? On verra ce que dira la justice à l'issue de l'enquête, mais à ce stade quand même, il faut dire que, quelles que soient les suites de cette affaire, on ne peut pas ne pas voir dans cette démarche la perspective d'élections municipales qui auront lieu dans 2 ans, en 2020, et le besoin de l'opposition de faire médiatiquement parler d'elle.
Stéphane Robert. Retour un an après sur une promesse du candidat Emmanuel Macron, le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés, mesure phare du ministre de l'Éducation, est globalement plébiscité par les enseignants et syndicats. Il regrette toutefois que la mise en œuvre de cette mesure se soit faite au détriment d'autres classes et écoles. Je vous propose d'écouter le témoignage de Nathalie Lagou. C'est la directrice de l'école élémentaire Romain Rolland à Évreux. Elle redoute particulièrement la rentrée prochaine quand les classes dédoublées vont s'étendre au CP en REP+, et au CE1 pardon, en REP+, et au CP en REP. Nathalie Lagou.
On a une école qui était assez grande, on avait cette chance. Maintenant, on a 14 classes à la rentrée prochaine, dont 7 dispositifs dédoublés. Donc 3 CE1 et 4 CP. Là, on est un petit peu au maximum au niveau des locaux. On a supprimé la salle art visuel l'année dernière. Et là, cette année, on va supprimer la salle informatique qui va se retrouver dans un tout petit couloir, on va dire, et la salle de réunion où on faisait aussi des activités avec les élèves, mais aussi les cours de français pour les parents qu'on avait dans cette salle. Et là, il ne nous reste plus qu'une salle polyvalente, c'est la bibliothèque. Donc ça va un peu coincer à la rentrée. Parfois, on est contraint de supprimer même la bibliothèque. Et là, ça pose vraiment des questions, surtout pour les autres classes. Dans mon réseau, il y a des écoles où on n'a pas pu faire des classes pour un enseignant avec une classe. Et parfois, on est deux enseignants dans une classe avec seulement une paroi au milieu où on doit enseigner chacun de son côté, mais avec la paroi qui n'est pas très insonorisée.
Nathalie Lagou de l'école élémentaire Romain Rolland à Évreux. C'est ce soir la fin des épreuves écrites pour les candidats au baccalauréat des séries générales et technologiques. Dès demain, les élèves pourront à nouveau se connecter à Parcoursup, la nouvelle plateforme d'accès au supérieur, pour voir s'ils sont toujours sur liste d'attente ou s'ils ont des propositions. À propos d'orientation, nous allons nous intéresser ce soir aux grandes écoles françaises. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Des grandes écoles qui exportent de plus en plus leur savoir et leur formation à l'étranger, après l'Asie ou les Émirats. Elle s'installe désormais au Maroc pour avoir une ouverture sur l'Afrique subsaharienne. Et à Rabat, où vous vous êtes rendu, Hakim, l'ESSEC Business School a ouvert son propre campus il y a un an.
Et oui, ce matin-là, c'est devoir sur table au campus marocain de l'ESSEC. Ici, plus d'une centaine d'étudiants qui viennent d'Asie, d'Europe et d'Afrique sont scolarisés. L'Afrique, nouvelle priorité de l'école, où 13 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, rappelle Thierry Sibieude, directeur d'ESSEC Africa.
Bien sûr que l'enseignement du business repose sur un certain nombre d'invariants. Les bases du marketing, elles sont les mêmes en Afrique, en Asie, en Europe. Mais le marketing n'est pas le même. Et donc, il y a cette idée de se mettre en capacité de contextualiser la chose et d'offrir aux étudiants cette compréhension, cette connaissance. Et pour comprendre et pour connaître, quoi de mieux que de vivre personnellement une expérience ?
Mieux comprendre les codes et la culture africaine, mais aussi avoir accès à un diplôme reconnu dans le monde entier, c'est l'objectif de Kendra Gasnier, jeune Camerounaise de 18 ans, en deuxième année à l'ESSEC à Rabat.
Les personnes qu'on recrute vont rester un moment et quand elles vont repartir, on n'aura pas forcément appris quelque chose d'elles. C'est pour ça qu'il faut d'abord former à la base les travailleurs et les managers aussi, pour enseigner ce qu'ils ont appris aux autres. Et ça permettrait d'augmenter la qualification des Africains.
Alors, si l'ESSEC a fait le choix d'avoir son propre établissement, d'autres grandes écoles françaises comme Polytechnique, eux, ont privilégié les partenariats, comme au lycée Moulay-Rabat de Youssef, Monsieur Julliard, Thibaut Julliard, élève officier en première année à Polytechnique, aide les jeunes Marocains à se préparer au concours aux grandes écoles.
Disons que je leur apporte l'expérience des classes préparatoires, le vécu du concours, alors que les professeurs marocains, même s'ils connaissent les concours parce qu'ils ont parfois été jurés dans les concours français, n'ont pas vécu pour la plupart l'expérience des classes préparatoires. Moi, je vivais avec eux à l'internat, donc ça me permettait aussi, s'ils avaient besoin de discuter ou s'ils avaient besoin d'aide le soir, j'étais toujours à leur disposition.
Une aide et une proximité qu'apprécie Florentin, étudiant qui vient du Ghana, étudiant qui prépare les concours aux grandes écoles.
Ça facilite beaucoup plus les choses, parce qu'avec les profs, ce n'est pas toujours évident, et les profs ne sont pas toujours proches de nous. Lui, il est juste à l'internat avec nous, donc on peut le voir presque tout le temps, on peut le côtoyer. Ça fait que le courant passe très, très bien.
Alors si le Maroc est une véritable ouverture entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne pour les grandes écoles françaises, avec des frais de scolarité en moyenne de 10 000 euros par an, ces formations restent surtout destinées aux familles les plus aisées. Rappelons Aurélie qu'au Maroc, le taux d'analphabétisme est de 40%, c'est le taux le plus important d'Afrique.
Merci Hakim Kasmi. Plusieurs membres d'une famille du Loiret comparaissent devant la justice pour avoir soutenu le groupe État islamique. Un jeune homme de 22 ans, son ex-épouse et son père sont jugés à Paris pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison pour être partis en Irak ou en Syrie ou pour avoir organisé le départ de jeunes femmes prêtes à épouser des djihadistes. Le compte-rendu d'audience de Florence Thurm.
T-shirt blanc, cheveux bouclés et courte barbe noire, Samir Etoun comparaît seul dans le box des prévenus. Son frère Yassine, considéré comme l'un des bourreaux du groupe État islamique, fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour assassinat. Ce frère, qu'il dit avoir voulu rejoindre en Syrie, lui le bon élève qui venait de décrocher un CDI, parce que je sentais mon cœur mourir à petit feu en restant ici. Sur place, il va séjourner dans 3 camps, entre cours de religion, entraînement sportif et l'ennui, la déception qui le pousse à revenir, lui et son épouse qui a quitté Saint-Étienne pour le rejoindre à Raqqa. Une jeune femme brune moulée dans un jean délavé et qui s'approche de la barre en talons hauts. C'est le père de famille également poursuivi qui se serait chargé de trouver une épouse à ses fils. Vous avez tiré avec des armes, interroge le président. Oui. Votre femme aussi? Oui. Samir Etoun admet avoir participé à des entraînements, des missions de surveillance, mais jamais à des combats. Et il assiste tête baissée à la projection de la vidéo intitulée « Rencontre concernant les attaques bénies de Paris » où on le voit une Kalachnikov en bandoulière lancée à la caméra. À vous mes frères, continuez dans cette voie-là, tuez-les tous, tuez tous les koufars que vous voyez dans la rue. Images et propos saisissants, calmement le président lui demande de s'expliquer de la même voix, douce et posée, il livre sa version. Je ne savais pas ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, j'ai été contraint de faire cette vidéo pour prouver que je n'étais pas un espion. Dans la salle, son père n'a pas bronché. Quand les deux frères avaient posté sur leur compte Facebook une photo d'eux, les armes à la main, il avait simplement commenté « Gardez le beau sourire ».
Florence Thurm au palais de justice de Paris. Paris où le service de voiture en libre-service Autolib cessera définitivement de fonctionner le 31 juillet. Dans l'intérêt des abonnés et des salariés, l'entreprise et le syndicat Autolib Vélib Métropole indiquent qu'elles ont convenu que le service s'arrêterait progressivement à partir du 2 juillet. Et donc, d'ici le 31, les abonnés seront informés par le groupe Bolloré de la fermeture des stations et du retrait des voitures qui interviendront donc graduellement. 4 cancers sur 10 sont évitables en France. C'est ce que conclut le Centre international de recherche sur le cancer. Selon cette enquête, qui s'appuie sur des chiffres de 2015, sur les 346 000 cancers dont souffraient les Français de plus de 30 ans, 142 000 auraient donc pu être évités si la population n'avait pas été exposés à un certain nombre de facteurs de risque. Parmi eux, le tabac arrive très largement en tête, 20% de cancers évitables, suivi de l'alcool, mais aussi de l'alimentation et de l'obésité, Tara Schlegel.
Oui Aurélie, la cigarette tue, on le sait, mais on pense un peu moins au danger de la malbouffe. Il faut dire que le risque relatif est bien moins élevé, mais tout de même, l'alimentation déséquilibrée et l'obésité étaient responsables de 5% des nouveaux cas de cancer en 2015, soit plus de 18 000 hommes et 18 000 femmes qui auraient évité une tumeur en changeant d'alimentation. L'OMS et la France recommandent ainsi de manger 600 grammes de fruits et légumes par jour et 25 grammes de fibres, mais déconseillent à l'inverse d'avaler plus de 300 grammes de viande rouge par semaine. L'étude est très précise sur les corrélations observées. Ceux qui s'offrent chaque jour un steak de 150 grammes chaque jour donc auraient 17% de risque en plus de développer un cancer du côlon et 11% de risque d'avoir un cancer du pancréas, en plus de la population normale qui respecterait donc les recommandations de l'OMS. Mais modifier ses habitudes n'est pas simple, reconnaît l'endocrinologue Jean-Michel Boris, et c'est toute la société qui doit jouer le jeu.
Les collectivités locales ont vraiment un rôle extrêmement important parce qu'elles sont à proximité des lieux de vie et c'est elles qui peuvent faire en sorte de favoriser un petit peu plus l'accessibilité à des activités physiques, par exemple, à des cantines équilibrées pour les enfants dans les écoles, autre exemple. Et ensuite, donc, il s'agit de modifier son mode de vie. Et là, le législateur peut également avoir une utilité, par exemple, en favorisant les systèmes d'information. C'est ce qui vient d'être fait avec les logos qui sont apposés sur les produits, mais aussi parfois en disant non, il n'est plus question qu'il y ait des grands contenants d'aliments trop sucrés ou trop gras, notamment à destination des enfants.
À cela s'ajoute une inégalité face à l'obésité, qui est un facteur de risque de cancer important chez la femme en particulier. L'obésité commence doucement à reculer dans la population éduquée, mais parmi les personnes moins éduquées et celles qui ont moins de moyens, elle continue, l'obésité, à progresser, en particulier chez les enfants.
Tara Schlegel, le photographe sud-africain David Goldblatt s'est éteint tôt ce matin. Il était connu pour sa dénonciation de l'apartheid. Le Centre Pompidou lui avait consacré une rétrospective cet hiver et vous pouvez réécouter sur franceculture.fr l'entretien qu'il avait accordé à Olivia Gesbert dans La Grande Table en février dernier. David Goldblatt avait 87 ans. Météo France vous promet du soleil sur tout l'Hexagone demain. Il fera 11 à 17 degrés le matin, 18 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales seront en légère hausse de 22 à 30 degrés jusqu'à 33-34 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.